Hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue à votre balado SPA 4.0 que vous nous écoutiez naturellement live, que vous nous écoutiez en différé ou que vous nous écoutiez sur Balado Québec. Allez vous abonner. Prenez les quelques secondes qui suivent. Prenez le temps d'aller vous abonner sur soit YouTube live, sur Balado Québec. Allez-y, là, je vous laisse 30 secondes et on vous revient avec un sujet très intéressant pour moi et je suis certain pour vous aussi. On parle chasse à l'ours. Et voilà, nous sommes de retour. Salut mon ami Sylvain Paquin. Et oui, cette semaine, on parle chasse à l'ours chez Simplement Plein Air. Et vous savez que c'est un de mes sujets préférés, la chasse à l'ours. Donc, écoutez, ceux qui seront retardataires seront retardataires, mais on parle chasse à l'ours avec vous. On va y aller d'une façon relaxe ce soir, là. On va jaser. J'espère que vous m'entendez bien. Nouveau micro, donc j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Oh, je sais comment ça fonctionne, mais je veux dire, je ne sais pas comment ce qui résonne dans vos oreilles. Donc, cette semaine, on vous parle de chasse à l'ours. On vous parle de différentes méthodes de chasse à l'ours. Qu'est-ce qui vous fait cliquer? On va répondre à vos questions. Écoutez, salut Marc, salut Denis. T'as hâte de commencer cette année? Oui, on est tous comme ça. Salut Cynthia. On est tous un peu comme ça, hein? On est comme, tu sais, l'effervescence de la chasse à l'ours, ça commence là. Tu sais, vers la mi-février, là, on commence à vouloir là, parler chasse à l'ours. On commence à vouloir faire notre magasinage, je pense. On a différents sujets ce soir. Là. Je me suis pris une petite liste parce qu'il y en a, beaucoup. Mais écoutez, on va parler de méthode d'appâtage et on va parler des armes utilisées pour la chasse. Quel genre d'armes vous privilégiez? L'arc, l'arbalète, la carabine, même le fusil. Dans certains endroits, on chasse avec un fusil. Préférez-vous chasser sur une plateforme, par terre, en tree stand? On va parler de toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai commencé par... je vais vous montrer des petites vidéos de mes zones d'appâtage. Qu'est-ce que je fais quand je vais appâter dans un nouvel endroit que je connais pas, première fois que je suis là. Écoutez, salut amigo, salut mon cher Marc. Écoute, salut Denis, salut Animal Parkin, Martin L, le son est bon, super. Écoutez, on va commencer tout de suite là. Ça va être le premier sujet. On va aller écouter une courte vidéo et on vous revient puis on va jaser de ça. Salut tout le monde. Bienvenue chez Simplement Plein Air à notre canal YouTube. Mon nom est Guy Martin. Et avant de faire n'importe quoi, vous allez partir, vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube et aller toucher la petite cloche là. Hein? Passer votre curseur là-dessus, bing! Toutes les vidéos, comme ça, vous ne manquerez rien de Simplement Plein Air. La raison de notre vidéo cette semaine, on s'est lancé tout un défi. Et oui, on est en pleine zone 1, vous savez, on est déménagé dans le coin de Matane, plus précisément dans un magnifique endroit qui s'appelle Saint-Ulrich. On a trouvé un endroit et là, on s'est dit, pourquoi pas appâter? C'est un endroit, naturellement, c'est privé. Beaucoup d'orignal, il y a beaucoup, beaucoup de cygnes. On voit très peu de cygnes d'ours pour le moment. On est le 9 juin, mais j'ai fait mes devoirs, j'ai parlé avec les gens autour et on m'a dit que l'ours commençait à se manifester vers le 15 de juin, à aller jusqu'à la fin du mois. Donc, on est le 9, on s'est dit, moi et ma conjointe Nancy, pourquoi pas aller faire un site d'appâtage? C'est tout un défi, les amis. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça fonctionnera pas? On ne sait pas, mais on y met la gomme, ça, je vous le promets. On va vous le montrer, les images qui vont suivre vont vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Et en espérant aussi qu'on va avoir des belles images. Et il commence à y avoir un peu de mouches. Et oui, la mouche commence à nous manger, donc c'est bon signe. Parce qu'à beaucoup d'endroits, on le sait, quand il y a de la mouche, il commence à avoir de l'ours. Donc là-dessus, moi, je vous dirais que les images qui vont suivre, vous allez voir le site d'appâtage. On a appâté, vous savez, moi, j'aime beaucoup appâter par terre. Ici, on n'avait pas de... J'ai un trappeur que je connais, mais il n'y avait pas de castor. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher, et oui, du poisson, du hareng. Du hareng, on sait que ça sent beaucoup. Et on va faire des lignes d'odeur avec le hareng. On va en mettre ici et là pour naturellement attirer tout ce qui pourrait bouger dans le bois, que ce soit les corbeaux, les renards, les coyotes, pour attirer des animaux qui vont transporter ça puis qui vont nous mettre de la senteur un peu partout dans le secteur. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire nos lignes d'odeur et par la suite, je vais vous montrer la façon dont on a monté notre site d'appâtage. Vous allez voir, c'est pas sorcier, très beau site. On a deux tree stands, un pour Nancy, naturellement, et un pour moi qui va filmer Nancy, qui va récolter un gros ours, on va l'espérer. Donc, c'est tout un challenge, c'est tout un défi qu'on s'est donné. Si ça fonctionne pas, bien, vous allez voir comment je monte un site d'appâtage, comment on monte ça, comment on fait nos lignes d'odeur, qu'est-ce qu'on fait. Vous allez voir, pour faire une bombe d'odeur, bien, j'ai mis une chaudière de 5 gallons. Vous allez la voir aussi dans la vidéo. Une chaudière de 5 gallons dans un arbre avec au moins 25 livres de hareng, encore là. Là, elle a commencé à couler. Naturellement, il y a des trous dedans tout le tour. Ça a commencé à couler. La senteur va commencer à se répandre. Donc, ça va être vraiment plaisant. On a du maïs, on a des beignes, naturellement. Et on a un autre genre de gros suçon par terre. Vous allez voir, là, blanc. Vous allez voir, c'est comme un crémage, mais c'est pas un crémage. C'est pas une jam non plus. C'est vraiment, vraiment dur. Mais de la jam, on a mis aussi. On a mis de la jam au bacon. Ah oui, on va l'essayer. Et la prochaine fois qu'on va revenir, ben, on va essayer la jam au beigne. Donc, là-dessus, les amis, je vous laisse à ces quelques images. Et on va partir, puis on va aller faire la ligne d'odeur avec le hareng dans le haut du terrain. À tantôt.
Là, je vous ai mis de la viande sur la table. Là on a mis de la viande. Laissez-moi vous dire une chose. Premièrement, certains d'entre vous vont probablement se dire du hareng. Qu'est-ce que ça a à faire? Parce que vous savez que moi, je préconise beaucoup de nourrir le plus... Pas nécessairement naturel, là. J'aurais pas de framboise ou de... Mais j'aime demeurer avec... nourrir avec ce qu'il y a dans le coin, là. Qu'est-ce qu'il va avoir, du moins. Parce qu'on sait que dans le temps de la chasse, les fruits, il y en a pas encore, là. Mais si votre ours est habitué dans ce coin-là, vous voyez des framboises, des mûres, que ce soit des cerises. Eh oui, des cerises. Vous allez voir des petits fruits, des bleuets un peu partout. N'allez pas le nourrir avec des pommes, là, puis avec des carottes. C'est pas des chevreuils, là. On va essayer de nourrir avec ce qu'il y a dans le coin. Si vous voyez qu'il y a un ours, là, écoutez, qui commence à vouloir là, manger des pommes dans votre coin parce qu'il y a à peu près juste ça comme fruit, pourquoi pas? Mais moi, je vous dirais là, que la meilleure façon quand on arrive sur une nouvelle bête, là, on parle toujours d'une nouvelle bête, un nouvel endroit, on a fait un peu le tour, on a regardé ce qui se passait, et puis moi, je vous dirais qu'où j'étais là, présentement, il y avait zéro signe. Zéro signe, on n'a rien vu, même les gens autour nous disaient « Ah, il n'y a pas grand ours là ». Donc, le hareng, c'était simplement pas pour l'ours comme tel. Le hareng, c'était pour répandre la senteur. une senteur qui est quand même l'ours à frein, là. Hein? On le sait. Et puis, je vais vous montrer, je vais vous montrer une photo. Puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que, regardez, on voit la photo, là. On voit les arbres cassés. On voit que c'est au printemps, nouvelles feuilles. Tout le monde pense que, ah, ça, c'est de l'orignal. Laissez-moi vous dire, non, c'est pas de l'orignal. C'est justement nos amis les ours. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des bourgeons. Ils mangent la verdure. Les gens qui vont... Et puis le castor. Tu sais, le castor, là, parce que finalement, notre fameux nounours, notre ours, n'est pas nécessairement le plus grand chasseur qu'il n'y a pas. Il y a des mythes qui disent que c'est le plus grand prédateur au niveau de l'orignal, au niveau du chevreuil et au niveau du caribou. Je vous dirais peut-être le caribou ici, là, le caribou de bois qu'on a, peut-être, mais c'est faux. C'est faux. C'est un gros prédateur du castor, savez-vous pourquoi? Parce que le castor, quand il sort de l'eau, très vulnérable, lui. Lui, il est vulnérable, là, quand il n'est pas dans l'eau. Donc, la nourriture préférée, la viande préférée, quand un ours mange la viande, il va préférer du castor. Hein? Même si on voit des ours dans les dépotoirs qui sont là, puis qu'on entend souvent parler qui mangent des vidanges, c'est pas vrai. Ils vont être dans un dépotoir, puis ils vont trier, ils vont aller chercher ce qu'on appelle la bonne nourriture, finalement. Hein? Parce que dans un dépotoir, oui, il y a du sucré, oui, il y a toutes sortes de choses comme ça. Donc, il va aller chercher le bon du dépotoir. Il n'ira pas chercher nécessairement là, les vieilles... la vieille cochonnerie, là, tout ça, il touchera pas. Moi, j'ai même mis un castor à un moment donné qui est la nourriture préférée, on le sait, là, au niveau de la viande, pour l'ours. L'accrocher après un arbre et puis il m'a vous dire qu'il allait manger dans ma bête et puis il touchait pas au castor du tout. Il a commencé à avoir des mouches après ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que oui, les corbeaux sont arrivés et puis ils l'ont dévoré. On va aller voir, on a un commentaire ici. Non, j'ai pas de commentaire. Je vais vous montrer un autre. Comment est-ce qu'on a fait ça, finalement? Moi, là, j'ai ma méthode à moi. Est-ce que c'est la meilleure? Probablement pas, mais c'est une très bonne méthode. Vous allez voir ce qu'on a fait. Regardez cette vidéo.
Et voilà, c'est la façon, comme je vous mentionnais plus tôt, pour faire nos lignes d'odeur. On n'a comme pas le choix, on a été chercher du hareng. Et ce que j'ai fait, on a monté à environ un demi-kilomètre de la bête. Et ce qu'on fait, on fait juste en envoyer dans le bois comme ça, de chaque côté, naturellement, pour maximiser nos chances de pouvoir répandre la senteur un peu partout.
C'est ça, la senteur est importante, parce que là, le renard va ramasser ça, le coyote va ramasser ça. Puis, il va y avoir les martes, les pécans, tout ça. Ça va tout ramasser ça, puis ça va charrouiller ça d'un bord puis de l'autre, puis ça va mettre une nouvelle senteur. Là, à ce moment-là, c'est sûr qu'une senteur comme ça, pour un ours est curieux, et puis un ours, vous savez que dans le bon vent, quand on parle d'un bon vent, là, on parle que la senteur peut être charriée sur 30 km, 30-32 km. Ça commence à faire du stock, ça. Donc, sur un endroit où on n'est pas certain de qu'est-ce qu'il y a, on n'a pas vu, on n'a rien vu. Aucun excrément, aucune... On a cru, à un moment donné, voir là, une empreinte, mais on n'était pas sûr. On n'était pas certain de notre affaire. Donc, on s'est dit, écoute, on prend la chance, on y met la gomme, on y met le paquet, on va mettre de la senteur et puis vous allez voir une autre chose que j'affectionne beaucoup. Et puis, vous allez voir aussi une autre chose. Vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait aussi, en plus de le garocher dans le bois, mon hareng. Vous avez vu qu'on a mis du hareng, on s'est pas gêné, on a frotté contre les arbres, puis on s'est aperçu à un moment donné que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un ours qui est arrivé puis qui s'est frotté contre l'arbre. Il a laissé, on avait les poils contre l'arbre, donc c'était vraiment là, quelque chose de plaisant. Bonsoir, Monsieur Tourangeau. Salut, mon ami de Les Leurs Pémiska. On parle de Monsieur, moi aussi, je l'aime, le castor. Mon fils est là. Ah, ben oui, mon fils, salut, Raphaël. C'est le fun de le voir ici. Écoutez, oui. Ensuite, ce que je fais, quand je parle de senteur, on sait là que l'ours a une dent sucrée, hein? Puis au printemps, bien naturellement. Tu sais, il y a deux choses pour lesquelles l'ours vit. Hein? Quand il se lève au printemps, là, manger. Ensuite, ça va être le temps de l'accouplement. C'est les deux choses à laquelle l'ours vit pour. Donc, là, on va aller voir une autre petite vidéo. Ensuite, on va revenir sur d'autres sujets.
Okay, comme vous le savez, j'aime bien faire des lignes d'odeur. Et puis là, ce que je suis en train de faire, c'est justement, vous savez que j'affectionne beaucoup la disposition de ma bête. Je fais très, très attention. Je maximise toujours mettre ma bête face à l'ouest. Tantôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été faire notre ligne d'odeur du côté est, en amont de la bête, du site d'appâtage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé le hareng. Vous vous en souvenez? Donc là, ce que je fais, c'est de la vanille mélangée avec de l'huile et de l'eau. Là, présentement, bien naturellement, je fais ma ligne d'odeur ici. On va en mettre un petit peu partout. On va en sprayer un peu partout en hauteur. Et ça va être notre ligne d'odeur un peu différente. On va maximiser, hein? On a la bombe d'odeur qui est le hareng. Et on a, le petit côté sucré de notre ours. Donc, toutes les odeurs qui vont attirer. Je vous le rappelle, on maximise nos chances. Est-ce que ça va fonctionner? Hey, qui vivra verra. On le verra. À tantôt, tout le monde.
Et oui, qui vivra verra, parce qu'à ce point-là, on est rendu le 9-10 juin. Hein? On sait que la fin du mois s'en vient assez vite. Les gens nous ont dit, les ours commencent à se manifester vers le 15 juin. Donc, ça nous donne une fenêtre de 2 semaines. Martin nous a posé une question. Attendez un tout petit peu, je vais aller chercher ça. Et voilà, tu parles de hareng, mais est-ce qu'on pourrait utiliser n'importe quelle autre sorte de poisson? Moi, je te dirais que oui. C'est parce que le hareng, je l'avais sous la main. Il n'était pas si dispendieux que ça. Donc, j'en ai acheté 100 livres. Je vais vous donner une idée, là. Et j'ai acheté 100 livres de hareng. Et puis, il m'en reste encore 50 livres, là. Mais j'ai pris 100 livres de hareng. Mais écoutez, oui, ça peut être. Vous allez à la pêche. Hein? Vous allez à la pêche à la glace, filetez vos poissons. Pourquoi vous jetez vos arêtes et puis tout ça? Regardez-les. C'est encore mieux. C'est du bon poisson. Mais naturellement, on sait qu'un poisson comme ça sent. Donc, tout ce qui va sentir, c'est bon. À l'exception. Et puis là, je vais peut-être en choquer quelques-uns. C'est que moi, ma préférence pour les senteurs, et ça de plus en plus, on voit beaucoup de produits sur le marché, sans les nommer, je nommerai pas aucun produit, là, mais qui sont fabriqués pour attirer les bêtes. Hein? Je parle en particulier pour l'ours, moi, là. Je parle pas pour le chevreuil, le rignal, là, ça c'est complètement un autre monde. Moi, je parle pour l'ours. La senteur que l'ours déteste le plus, c'est l'ammoniaque. Donc, souvent, vous allez déboucher un de ces pots-là. Première senteur qui vous vient au nez, c'est quoi? Un ammoniaque, eau de javel, une senteur comme ça, fini. Votre chasse est finie, je vous le dis, là. Mettez-en sur vos bêtes. Vous ne voulez pas avoir d'ours dans vos poubelles, vous avez des troubles en campagne, là. Mettez-en. Mettez de l'ammoniaque autour de vos poubelles, ça va être fini, il n'y aura plus d'ours. C'est ça qui est le truc. Mais ces senteurs-là sont faites artificielles. Je ne parle pas des jams qui sont faits avec des minéraux et tout ça. Je ne parle pas de ça, là. Mais je parle de senteurs attractives, si on veut, pour l'ours. Il faut faire bien attention. Extrêmement attention parce que vous pouvez ruiner vos chasses avec ça. Complètement. peut-être qu'un jeune, ça, puis encore là, faut que ça disparaisse, cette senteur-là, mais peut-être qu'un des jeunes va s'aventurer, va être curieux des petits ours, mais des gros ours, vous n'en verrez pas. Ça, c'est sûr et certain. Vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur de notre fameuse bombe d'odeur là, que j'ai accrochée dans l'arbre, là, c'est ça. Là. C'est exactement ça. C'est ça le hareng. Là, il était gelé encore, comme vous le voyez, il est dans la chaudière. Moi, pour ne pas polluer le site, OK, ça, c'est une chose que j'ai beaucoup de difficulté avec, c'est qu'il y a beaucoup de sites de chasse qui ont l'air d'un dépotoir municipal. Et puis ça, là, c'est vraiment... Moi, en tout cas, moi, j'aime pas ça, là. Pour ça que je chasse avec des bêtes par terre, mais ça, j'ai rien contre ceux qui chassent au baby, là. Enlevez-vous ça de dans la tête, là. Au contraire, ça me dérange pas. Parce que si vous êtes loin de votre bête, vous n'aurez pas le choix, là. Il faut absolument que vous alliez faire un tour une fois par semaine. Ben là, si vous êtes par terre puis vous êtes loin de votre bête, vos ours vont les manger ailleurs. Là. Ici, j'ai... quand vous mettez la senteur, est-ce que c'est dangereux d'attirer d'autres prédateurs pendant que vous l'appliquez? Ben, attendez un peu. On va les mettre ça ici. Pendant que vous l'appliquez, est-ce que tu recommandes si jamais ça arrive? Et félicitations encore. Non, on attire. Oui, c'est sûr qu'on va attirer d'autres prédateurs. Mais pas pour nous faire attaquer, là. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai répandu des senteurs un peu partout là, autour de mes bêtes. J'ai jamais eu de problème. Même qu'on a une anecdote, un matin, on est arrivé à une heure non conventionnelle. Il y avait une mère avec des petits d'un an et demi sur la bête. Et puis, je vous dirais, quand on est arrivé sur la bête comme telle, la mère nous claquait des dents, faisait tous ces bruits, excusez, l'air un peu fou en le faisant, là, mais c'est ça, elle faisait ses bruits et tout. Et puis, je vous dirais que non, ça l'a même calmé. Quand on est parti de là, parce que moi, je répands toujours de la vanille autour, c'est un peu comme sonner la cloche. Tu sais, il y en a qui vont cogner sur le drum pour dire, bon, on a nourri. Puis c'est bon. Mais nous, c'est la senteur. Et puis, je vous dirais, là, hey, elle branlait un arbre. Là. Elle était vraiment... ma conjointe était nerveuse. Mais je vous dirais que aussitôt que j'ai pris ma vanille puis j'ai sprayé vers elle, ça a été fini. Là, elle savait exactement. Oups, OK. Ah, non, ça va bien l'affaire. Ah, OK, il est venu nous. C'est mon dîner qui arrive, notre dîner, là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, elle est revenue. Elle est revenue. On n'était pas sorti du bois qu'elle était revenue avec les petits. Ça a bête. C'est super le fun. Monsieur Tourangeau, oui, la senteur d'anis est définitivement une des meilleures senteurs pour l'ours. Mais attention, encore là, il y a beaucoup de gens, quand on la jette commercialement, il y a toujours des préservatifs. Quand on achète de l'huile d'anis, aucun problème, là. Ça, vous pouvez vous acheter de l'huile d'anis et puis la mélanger avec de l'eau, pas la mélanger, dépendamment de la façon dont vous voulez vous en servir. La seule chose que je dirais aux gens, que j'ai déjà vu en riant toujours, salut Yannick, que j'ai toujours ri, c'est qu'il y a des gens qui prenaient, des Tempax. Mettaient l'huile dessus, le Tempax grossissait. Ben oui, mais c'est fait pour retenir la senteur. C'est pas des pattes. Donc, le gars demande, ça marche pas, ça, cette affaire-là, ça sent pas. Ben oui, mais c'est pas des pattes de senteur, là, mon petit pit, là, que tu viens de mettre là. Marc nous envoie, il n'y a pas de crainte à avoir en forêt. Le plus dangereux, c'est l'homme. Mais effectivement, Marc, tu as bien raison. Souvent, on est vraiment dangereux. J'ai sauté une question, moi, de Monsieur Gagnon. Nous, on ramasse toute une fois la chasse terminée. Juste le baril pour l'année suivante. Ça, c'est tu sais, le baril, c'est correct de le laisser là. Même moi, je ne le laisserais pas là, là. Tu sais, je l'enlèverais de là complètement. Mais c'est correct de le laisser là tant que le restant est propre, là. Tu sais, parce que là, on met des barils. On met des pneus. On met des cordes avec un pneu pour qu'il se promène dessus. Là, on met un pneu attaché après un arbre. On met un escalier pour qu'il monte dedans. Et puis là, tout ça, on prend de l'huile de la patate frite, là, mon gars, là, puis on t'arrose ça d'un bord puis de l'autre. On pollue l'endroit totalement. Moi, je vous dirais une chose qui marche aussi bien que l'huile de la patate frite, c'est de la mélasse. Moi, j'aime mieux utiliser de la mélasse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la mélasse, là, moi, en tout cas, sur qu'est-ce que je fais, là, puis en avant de ma bête, là, en utilisant de la mélasse, là, c'est encore plus collant. Ils en ont après le poêle. Ils s'en vont. Ça frotte après les arbres. Ils mettent de la senteur tout partout. Partout. Et puis, vous ne polluerez pas l'endroit. Parce que, moi, vous dire de quoi? Quand vous allez arrêter de nourrir après la chasse, ils vont venir, puis tous les endroits qui ont un peu de mélasse ou qui ont un peu de senteur, là, ils vont le manger. Ils vont même, tu sais, ils vont aller bouffer de la terre. Là. Vous allez voir, regardez bien, moi, j'ai un petit bout de vidéo, là. C'est la même femelle que je vous parlais, là, avec ses petits, là. Là, j'étais là. Et puis moi, là, où est-ce qu'elle va? Vous allez voir, elle va me regarder. Moi, je suis dans le tree stand. Je chasse avec un tree stand, c'est ça que je fais. Je suis dans le tree stand, elle est en bas, il y a la caméra qui est en bas. Vous allez voir, regardez bien. Regardez ce qu'elle fait. Là, elle sait, là, les petits sont là. Il y a de quoi qu'elle n'aime pas, là. Il y a de quoi qui se passe, puis c'est pas moi. Elle sait qu'il doit y avoir un mâle là, qui est dans le coin ou quelque chose. Regardez. Regardez bien ça. Quand elle avance, elle sent encore. Elle sait que je suis là, là. Elle n'est pas folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle regarde des airs, elle me regarde. Puis regardez bien quand elle va se revirer à la tête, là. Cloc, cloc, cloc. Elle a claqué des dents. Regarde, on la voit, là. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pas parce qu'elle voulait m'attaquer. Un ours fait ça, puis ça, je suis en train de préparer une vidéo, là, sur le langage des ours, là. Elle a fait ça, là, parce qu'elle est mal à l'aise. Elle se sent pas à l'aise, elle est pas bien, elle est nerveuse un peu, là. C'est pour ça qu'elle claque comme ça. C'est pas parce qu'elle veut vous attaquer. Il y a beaucoup de gens qui vont penser, « Oh, elle claquait des dents, mon gars. Elle était prête à m'attaquer. » Non. Non, non. Premièrement, un ours, là. Un ours noir, le trois quarts du temps, va vous faire une fausse charge pour vous avertir. « Hey, autour de là. » OK? Là, t'es dans ma bulle. Tasse-toi un petit peu. Pas pour aller vous attaquer, pour vous manger, parce que finalement, vous ne faites pas partie de sa chaîne alimentaire, là. Notre ami, boum, Fluff, ça sent sucré et vanillé, ça coûte pas cher. Fluff, ça coûte pas cher et c'est parfait dans mon piège. C'est pour un drum, ça fera pas pour le prix. Fluff, connais pas. Je sais pas, tu peux-tu nous expliquer, Pierre, un peu c'est quoi? Je suis pas sûr là, du fluff. Fluff. En tout cas, si quelqu'un connaît ça, laissez-nous un commentaire. Et puis, justement, on va revenir un tout petit peu. Là, j'ai parlé de bouffe. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous alimentez. Ben là, Pierre, justement, nous a ouvert un peu ça. Là. Quand vous allez à la chasse à l'ours, vous les alimentez de quelle façon? Ah, OK, Pierre nous dit que c'est de la guimauve à tartiner. Oui. Ah ouais, c'est sûr, mais quand tu arrives avec un drum, c'est assez spécial, hein? Ça doit coûter un bon petit prix pour un drum. Mais vous autres, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que quand on parle de nourrir, là, quand on parle d'alimenter sa bête, là, vous l'alimentez de quelle façon? Hein? Est-ce que vous y allez avec du pain, des sucreries seulement? Allez-vous avec de la moulée comme Éconours, avec de l'avoine mélangée avec du maïs et puis tout ça, et de la mélasse? Hein? On sait que bon, les ours aiment bien la mélasse. De quelle façon vous les alimentez? Attends un petit peu, là on a Yannick. Yannick, tu penses sortir ton vidéo? du langage des ours, vers quelle date? Je te dirais que c'est un... Je suis encore à chercher, parce que j'ai beaucoup de vidéos d'ours. Et puis, je cherche encore les vidéos pour aller avec le langage. Comme là, on a cette femelle-là, là, je pourrais mettre le claquage dedans avec. Mais je veux démontrer exactement ce qu'un ours va faire. J'ai envoyé un courriel à des amis, à des universitaires de l'Université du Wisconsin qui ont fait l'étude, qui m'ont donné la permission d'utiliser leur son, finalement. C'est fait sur une étude qui s'est faite là, depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que cette étude-là a été faite, qu'elle se fait, disons-là. Denis, du pain séché, des pâtisseries, des bonbons, bêté à chaque jour. Quand tu parles à chaque jour, là, à ce moment-là, tu parles-tu là que, premièrement, est-ce que tu es par terre ou dans un berry que tu vas... parce que si tu y vas à tous les jours, tu n'es pas loin de ta bête, naturellement, là, j'imagine. Donc, ça, c'est pas pire. Martin nous dit qu'il y a un mélange de maïs, de grains avec de la melasse. Ça, là, comme de l'éconours, là, finalement, moi, je trouve que c'est une des meilleures choses. Oui, c'est le fun de leur donner du pain aussi. Moi, je mélange du pain, je mélange des choses avec. C'est ce que je fais. Mais, P.A. Denis, t'es au baril. OK. Donc, à tous les jours, t'as une bonne petite gang. Denis Tanguay, popcorn du Jello. Ça, le popcorn, j'en ai mis, moi, puis je vous dirais que c'est la première fois de ma vie, cette année, puis il m'a vous montré mes bêtes tantôt, là, où j'en ai mis, puis qui n'ont jamais touché. Ils n'ont pas touché au Jello. Puis quand je fais au Jello, qu'est-ce que tu dis là, au popcorn. Quand j'étais en Abitibi, là, c'était la première chose qu'ils bouffaient. Ils se couchaient dans le popcorn, puis ils mangeaient le popcorn, puis là-bas, là, zéro, 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 même pas un morceau de popcorn. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, première fois que je vois ça. Yvan nous dit, buffet à volonté, mélasse, pain, bang, popcorn, moulet à chien. Moi, je n'utilise pas moulet à chien. C'est drôle, hein? Je vais vous dire pourquoi. Hein, on le sait que l'animal, on le sait que l'ours a de la trichinellose, un peu développé. C'est justement un parasite. On sait tous, on connaît ça, ceux qui connaissent la chasse à l'ours. La bouffe à chien, il y a du chimique dedans. La viande, ça a été transformé. Mettre de la bouffe à chien, moi, je la mange, hein, ma viande. Fait que je suis moins fou de ça un petit peu. Puis pour les fois que je l'ai essayé, là, pour être franc avec vous, là, ça a jamais bien, bien marché. Ça a jamais été la meilleure des choses, même mélangé. Moi, j'aime bien faire mes jams. Hein? Si je me trouve comme là-bas, là, je ne l'ai pas faite parce que j'ai jamais trouvé de framboise. On n'a rien trouvé. Il n'y avait pas de fruits aux alentours. Puis comme je vous dis, il n'y avait pas grand trace d'animaux, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on n'a pas rien vu. Mon épouse vient de me dire bonsoir parce qu'elle travaille très tôt demain matin. Donc, non, c'est ça, on n'a pas rien vu. Donc, c'était un peu difficile, mais qu'est-ce que j'aime faire, comme je l'ai fait dans le temps qu'on était à Rouen, c'est que quand on voit qu'il y a de la framboise, à ce moment-là, on va faire une jam à framboise, maison. Sucre, framboise. Quand on est sur le bord de où est-ce qu'il y a du canneberge, où est-ce qu'il y a un fruit qui ressemble un peu au canneberge, là, je me rappelle plus du nom exact de ce petit fruit-là, mais quand on trouve ce petit fruit-là, ben, je fais une jam à canneberge qui fonctionne hyper bien. Ça fonctionne, là, je vous dirais qu'ils sont fous de ça, mélangé avec du maïs. Mais pour la moulée à chien, non, moi, je me réserve un tout petit peu là-dessus. Là. Popcorn, ça pogne dans les dents, toi. Lol, ouais. Ouais, c'est sûr que le popcorn va pogner dans les dents. Mais les ours ici en Gaspésie n'ont pas aimé ça pendant tout. Je veux dire, ils n'ont pas touché. Ça n'a rien touché. Je suis demeuré un peu surpris. J'ai une autre question pour vous. Vous chassez au sol, chassez-vous sur des plateformes ou en tree stand? Qu'est-ce que vous préférez? Et puis, quel vous avez déjà essayé aussi? Parce que, on le sait tous, on a... excusez. C'est de l'adrénaline quand on chasse par terre. Hein? Chasser à l'ours, là, c'est pas mal le fun. La gomme de xanthane, ouais, ça donne la même texture que la jam commerciale. Et puis, si ton mélange sucré est trop liquide, oui, parce que ça va le faire prendre, ça va le faire jammer. Ça, je ne l'ai jamais utilisé, remarque, là, mais ça devrait être bon. Je connais le produit, mais ça devrait être bon. Oui, c'est ça. Vous chassez comment? Martin nous dit, puis ça pourrait, ouais, j'ai essayé de nous tirer à chien, puis ça attire beaucoup les ratons. Comme le maïs, hein? Le maïs aussi, tant qu'il y a des ratons, des moufettes, c'est assez difficile, là, je vous dirais, là, de pas les attirer, surtout dans le sud du Québec, on en voit plus, là. Nous, à Rouyn-Noranda, moi, j'ai eu une moufette. Une fois, mon ami Martine Chavigny en avait plusieurs. Non, elle en avait une sur une là, qui était, mais elle est là souvent. Là. Mais pas de ratons. Des ratons, moi, j'en ai pas vu. Tree stand, ouais, tree stand cette année, ça va être au sol dans une tente. C'est le fun. Moi, j'aime beaucoup au sol. J'ai une belle anecdote là-dessus. Moi et mon épouse, encore une nouvelle bête, mais qui fonctionnait en Abitibi. Fonctionnait, des grosses ours dessus. On arrive là, à un moment donné, on nourrit, c'est le temps, on va chasser, il sortait de jour. On s'assoit dans la tente. Puis à un moment donné, je trouvais que ça sentait pas bon. J'ai dit, coudon, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Je roule mon petit screen en arrière, je regarde, ça décolle, toi. Il y a un ours qui est venu défecter, je vous dirais, à... Tu sais, il y a la toile de tente, là. Moi, je suis assis dans la tente. Lui, il était à l'autre côté. Il a défecté, je vous dirais, 2 pieds de moi. Il s'est lâché. Je vous dirais que c'est assez énervant. Et puis, ce soir, on l'a pas vu ce soir-là, naturellement. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on est parti de là. Le soir, il est venu, il a tout défait la tente. Tout défait ça en morceaux. Il a déchiqueté ça, là. Je dirais, c'est assez spécial. Yannick Bastien nous dit, lui, qu'il est dans une tente au sol avec un arbalète. On va parler des armes tantôt, Yannick aussi. Oui, au sol, je te dirais, là, c'est assez le fun. Tu me dis que tu es à 10 mètres entre la tente et ton baril. C'est à peu près, moi, 10 mètres avec un arbalète, je trouve ça un tout petit peu trop proche, là. Un tout petit peu trop près avec l'arbalète, parce qu'on sait que l'arbalète, moi, dire de quoi ça tousse, là. Ça passe à travers, c'est proche. 20 pieds, non, 30 pieds, 10 mètres. 10 mètres, OK, c'est 30 pieds. Non, c'est beau. Non, c'est que comme Martine Chavigny, elle est à l'arc traditionnel, elle va chasser, je vous dirais, à environ 5 mètres. Je vous dirais là, qu'elle est au sol, dans une cabane, sous la terre. Là. Quand tu es debout, tu es égal avec le baril, là. Puis quand il y a un ours qui se couche là, marrer dans le baril, là, tu peux aller gratter le derrière. Là. Puis même souvent, ils viennent te mettre la tête dans la cabane. Là. Fatiguant. Elle n'est pas nerveuse, admettons. C'est assez spécial. Et puis, ici, on a notre ami Pierre. Moi, au piège, ça n'a pas de la chasse, mais bon. Oui, non, c'est sûr. Puis on va parler aussi de trapage tantôt. Mais c'est ça, moi je favorise, au sol, faut aimer le challenge. Oui, M. Tarangeau, c'est bien vrai. Au sol, c'est un très beau challenge. Et puis, il y a beaucoup de gens, moi j'ai eu la chance de chasser en Colombie-Britannique. Et puis là-bas, il n'y avait pas de bêtage en montant à moi. Là. On ne pouvait pas bêter. On chassait l'ours à flanc de montagne, l'ours noir, là. Il y avait du grizzly aussi, là, mais l'ours noir, on le chassait à flanc de montagne. Là. Et puis, ils m'ont vous dire que c'était un super beau challenge. Et puis, je trouve un peu triste qu'on on le fait pas au Québec, qu'on fait pas ça, parce qu'on aurait des endroits où on pourrait le faire dans les Laurentides, là, dans les montagnes et puis tout ça. Les chemins de bois, les chemins publics, c'est sûr que les Laurentides sont plus privés, là, mais des endroits où on pourrait le faire, c'est tellement, 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 tellement le fun. C'est tellement un beau challenge, moi, je vous dirais, là. C'est trippant. C'est trippant, c'est une autre chasse complètement différente. Les gens qui pensent que c'est pas un challenge, là, moi, je dis, c'est assez spécial. Qu'est-ce que tu penses des phéromones pour ours? Ça fonctionne-tu? Selon toi, j'ai jamais essayé parce que encore là, j'aime pas le produit transformé. Je sais que des phéromones, on me dit c'est naturel, mais il y a toujours des additifs là-dedans. Ça, moi, j'ai peur de ça. J'ai peur parce que, justement, une senteur étrangère, puis une phéromone, peut-être à la pêche, je ne sais pas. Moi, pour dire, là, c'est un produit que je connais pas, j'ose pas trop m'aventurer pour le découvrir non plus, parce que ce que je fais a toujours porté fruit. J'ai jamais eu de difficulté, j'ai toujours eu de belles récoltes, donc c'est ça, c'est... J'ose pas, puis je veux pas l'apprendre, je veux pas le connaître non plus, puis j'ose pas dire, ah non, on l'utilise pas, je le connais pas. Je pourrais pas te dire, c'est une bonne question. Marc, cette année, j'aimerais bien récolter au sol avec l'arc traditionnel. Oui, Marc, Marc, on le sait, est un tireur à l'arc, un spécialiste, très bon tireur à l'arc, Cynthia aussi d'ailleurs. C'est sûr qu'à l'arc traditionnel, moi, à cause de mes épaules, parce qu'étant plus jeune, je tirais beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'arc, on n'avait pas la chance d'avoir les arcs comme on avait aujourd'hui, et surtout les instructeurs ou des amis pour nous donner des bonnes habitudes. Moi, je tirais au longbow quand j'ai commencé, et je me suis défait les épaules. Et puis, il m'est arrivé un petit accident dans le temps, j'étais au Kentucky, j'étais dans un arbre, dans un tree stand, au chevreuil. Et puis, j'ai un beau gros buck qui arrive en avant. Je m'étire. Et puis là, il y a comme eu une déchirure dans l'épaule. Et puis, j'ai tout laissé tomber, l'arc tombé et tout. Je n'étais même plus capable de débarquer de mon arbre comme tel. Oubliez ça, là. J'étais pris dans l'arbre. J'étais obligé d'appeler des amis qui ont appelé d'autres de leurs amis qui faisaient de l'alpinisme, sont venus me mettre un harnais pour me descendre, parce que j'étais plus capable. Puis par le temps qu'ils sont arrivés, là, j'avais les doigts, là, un doigt est à peu près comme ça. Là. Puis Marc s'en est rendu compte aussi, j'ai acheté une très belle arc, et puis je l'ai revendue à un de nos amis Facebook. Là. Je l'ai revendue, c'était 9,99, j'ai tiré avec un peu. Si vous allez sur Simply Outdoors, là, des vieilles affaires de fête de YouTube, là, vous voyez, je tire dans la maison. Ben non, c'était un bureau, là, mais en tout cas, j'étais bien équipé pour. Et puis, c'est revenu. Et puis, j'ai été obligé d'arrêter, donc, de tirer à l'arc. Donc, on y va à l'arbalète et à la carabine. Je m'en cache pas, je m'en haine pas. Je veux dire, j'aime bien la carabine. J'ai ma 30-30. Pas de mire de fer, là, j'ai pas de scope dessus. Puis, j'adore ça, là. Je vous dirais, là, c'est super le fun. On va aller voir si on n'a pas une autre belle petite vidéo à vous présenter. Oui, on va aller voir la bête, tu sais. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, cette fameuse bête-là. Et voilà, quand je vous avais dit, vous voyez là, tree stand, carabine, caméra, vous avez vu, j'appâte par terre, et vous avez vu aussi le popcorn qui n'a jamais été touché. Jamais, tellement là, qu'il n'y a plus, puis là, à un moment donné, ça vient tout petit. Là. Quand on est parti de là, on est obligé de le ramasser au râteau. Eh oui, on l'a ramassé, on a ratissé ça parce qu'il y en avait plein. Je ne laisserai pas ça là. On a tout enlevé de là. Malheureusement, nous, où on chassait cette année, on était censé chasser là, cette année, l'an dernier, on était censé chasser cette année aussi. Mais ce qui arrive, c'est que la personne a vendu ses terres à des gens de Montréal. Et puis là, on est encore pris pour trouver un autre endroit pour aller chasser. Là, c'est un défi parce qu'on était bien en Abitibi. On avait nos bêtes et puis des bêtes établies ou des bêtes établies avec des amis comme Martine Chavigny, Guy La Rochelle. Guy, j'ai jamais chassé avec, là, mais avec Martine Chavigny, on avait des bêtes qui étaient déjà là, déjà établies. Et puis la mienne était déjà établie, donc j'avais des ours dessus, il n'y avait pas de problème, là. Donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment là quelque chose. L'autre chose, est-ce que vous consommez votre viande d'ours? Est-ce que vous la consommez ou vous allez à la chasse, juste pour aller à la chasse, garder en tout cas, ça, on va y revenir un tout petit peu au niveau de la taxidermie, mais est-ce que vous y allez juste pour le trophée ou vous y allez aussi pour la viande? Ça, c'est une des choses que souvent nous a été posée comme question. Et puis, moi, vous dire, moi, là, attendez un petit peu, oui. Tu me connais, je mange du... oui, Pierre, tu me connais, oui, puis allez faire un tour sur sa chaîne, Les Leurs au Pémiscas, là, vous allez voir, Pêche et vie sauvage. Je vous dirais que c'est vrai, Pierre mange du raton laveur. Rien à son épreuve, mais c'est bien fait, par contre, là. Il mange pas ça comme ça, là. Mais oui, nous autres aussi, on le mange. On mange notre viande d'ours parce que la viande d'ours, c'est une des meilleures viandes là, qu'il y a, qui soit. C'est vraiment une bonne viande. C'est une viande qui est grasse. C'est une viande qui est bien. Naturellement, tu as besoin d'une bonne cuisson. OK? Quand on parle d'une bonne cuisson, c'est naturellement à cause de la trichinellose, là. 77 degrés Celsius. Petit thermomètre, moi j'en ai un électronique, vous pouvez demander à mon épouse. Je vérifie toujours ma viande. Mais c'est une viande qui se prête bien à la cuisson lente, slow cooker, là, le slow cooker, la cocotte, là, je ne sais pas trop comment on l'appelle en français, mais c'est là-dedans, moi, que je cuisine beaucoup. Par contre, je saisis toujours ma viande pour garder mes sucres, là. Monsieur Gagnon nous dit, certain que je la mange, j'espère, chasse pas pour le trophée, ouais, moi non plus, mais bien pour la viande savoureuse. Oui, la viande est très bonne, effectivement. notre ami Yannick nous dit, je suis carnivore, chasse pour la viande. Ben, tu sais, c'est vraiment le fun. Très bonne viande, oui, monsieur Tourangeau, c'est vrai que c'est une bonne viande, puis elle doit être bien préparée, effectivement. Ça, on va en revenir un petit peu tantôt. Mijoteuse, ouais, c'est en plein ça, Yannick. La fameuse mijoteuse. Mijoteuse, mon gars, oui, Marc aussi, je veux dire. C'est ça, moi, j'ai trop de misère avec ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est épouvantable. Oui, on va en revenir à ça aussi. Bien préparer sa viande. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et on sait que malheureusement, là, les bouchers commencent à être un peu moins nerveux, si on veut, autour de la viande d'ours. Mais il y a eu un temps où les bouchers n'acceptaient aucune viande d'ours dans leur étal. Ils ne voulaient rien savoir de ça. Ils ne voulaient pas garder de section. On sait qui sont comme, je pense, d'après la MAPAC, il faut que ce soit gardé à part. Toute viande sauvage, d'ailleurs, doit être gardée à part là, chez un boucher. Mais il y en a beaucoup qui refusaient complètement de le faire. Mais moi, j'ai toujours fait de boucherie, que ce soit chevreuil, j'ai même débuté de l'orignal là, quand j'étais à Rouen, justement. Et puis mon ours, j'ai toujours débuté mes ours. Encore cette année, mon ours, 7h15, il était à terre. 9h15, il était pendu ici. 2h15 du matin, il était tout dans le congélateur. Je le fais comme ça. Malgré que non, pas tout. Il y a une fesse qui reste. Et puis, justement, Yannick m'a demandé de faire une vidéo sur le dépeçage. Puis c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut le savoir naturellement, là. C'est sûr et certain. Là, on a ici Pierre qui nous dit « Mon chum Martial me fait du bacon d'ours. » Carrément débile. Oui, absolument. Absolument, parce qu'on sait que le bacon, naturellement, il est piqué, il est dans sa mûre, il est cuit par le sel. Mais il faut qu'il l'amène à une certaine température, par contre. Je ne sais pas trop comment il fait, là. Mais ça serait intéressant d'avoir une bonne recette comme ça. Parce que c'est vrai que la viande d'ours est très, très bonne. Hein? Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Le boucher, avez-vous un boucher? Est-ce que, naturellement, vous le faites vous-même? Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est des choses, j'aimerais ça avoir là, des gens, là, tu ne laisses pas quelques jours dans le frigo comme le chevreuil. Non, puis ça, là, même le chevreuil, là, moi, vous dire, c'est encore là, là. Les gens qui me disent ça, moi, ça me fait rire un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de pendre et faire vieillir votre viande. Là. Vous pouvez le faire. Oui, l'orignal, ça se fait. Le chevreuil. Mais une viande grasse, là, non. Je l'ai, non. Puis le moins de chance possible parce que c'est une chasse de printemps. Ça, c'est une autre affaire. Et puis, pour que les parasites aillent s'installer là-dedans, les mouches, puis tout ça, il fait chaud. Puis non, moi, c'est direct, bon haut la visite. C'est sûr que quand j'aurai pas le temps ou quand je serai trop vieux, si je le fais faire par un boucher, ben là, naturellement, lui, il va le pendre au frigidaire. Mais moi, j'ai pas la place. Et puis, deux, je le fais, boum, immédiatement. Non, je niaise pas avec ça. Notre ami Pierre, fumage à chaud et on le fait cuire avant de le consommer. Ah, OK, oui. Oui, définitivement, faut que tu fasses cuire. Il faut que tu amènes ta viande à 77 degrés Celsius. Denis nous dit, boucher, il connaît ça, fait de la bonne saucisse. Oui, oui. Puis la saucisse, moi, j'en fais aussi. Ça se fait très bien. Je fais ma viande hachée, je fais tout ça. On a ici, c'est qui? River Hunter Québec. On a eu un hiver très doux et avec très peu de neige. Comment penses-tu que ça va se traduire sur la population d'ours? Moi, vous dire que de un, sur la population, il n'y aura pas d'effet parce qu'on a eu une bonne abondance de furies à l'automne. Il y a eu de la nourriture en abondance. Donc, si on a un printemps un peu plus hâtif, là, je ne sais pas où tu es exactement au Québec, mais nous, en Gaspésie, on a encore énormément de neige, on a des temps froids. En Abitibi, je pense qu'il y a encore un bon couvert de neige. Mais dis-toi une chose, c'est que l'ours va peut-être sortir une fois ou deux en hiver, hein, parce qu'on sait, là, tu sais, ceux qui pensent là, qu'un ours hiberne, là, puis il dort, ben Dieu, non, non. Il est dans une torpeur. Et puis, les gens, comme ça me fait rire un peu, il y a des gens qui vont, à un moment donné, les biologistes qui vont vérifier dans des tanières. Mais oui, mais les biologistes, là, ils piquent la maman, là. Hein? Parce que la maman, même si elle est un peu groggy, là, laissez-moi vous dire qu'elle les attaquerait. Là. Il va les piquer, il pique, puis là, ben, naturellement, on sait qu'ils peuvent manœuvrer, ils savent combien de temps qu'ils ont et tout. Mais moi, je te dirais, sur la population d'ours, là, c'est plus à l'automne qu'on va le gager que rendu au printemps. Parce qu'à l'automne, tu sais que s'il y a un manque de nourriture, OK, la femelle, elle va rejeter ses embryons. Si là, elle n'a pas la masse corporelle de graisse, si elle n'a pas atteint sa masse corporelle de graisse, qui est 35% là, de sa masse corporelle, elle va rejeter l'embryon. Donc là, c'est sûr qu'on n'aura pas de petits. Hein? Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on sait que chez l'ours, là, J'ai même justement une étude là-dessus que j'ai vue après-midi, mais je le savais, là. Les ursidés sont parmi les mammifères terrestres ayant le plus faible taux de reproduction, car les femelles commencent à se reproduire entre l'âge de 4 et 7 ans et n'ont pas plus qu'une portée à toutes les 2 ans. Donc, oui, c'est lent. Et naturellement, là, écoute, on a eu une belle automne, il n'a pas neigé, il a neigé tard, donc ils ont bouffé en masse. Moi, je te dirais là, qu'on va avoir des ours. Ça va être le fun. J'embarquerai sur d'autres choses aussi là, avec ça, là, mais m'aller répondre à une couple de questions, puis on va y revenir là-dessus, River Hunter Québec. Là. Yannick, tu me disais, j'ai toujours affaire avec le même boucher depuis 12 ans pour le béchevreuil. Super, c'est vraiment bien. Si j'ai le temps, je fais ma boucherie moi-même, mais je laisse vieillir 4-5 jours. Avec l'ours, c'est pas obligatoire, M. Tourangeau, mais c'est pas mauvais. Si vous avez l'endroit pour le faire, faites-le. Absolument. Moi, c'est parce que j'ai un très beau garage, mais je suis craintif un peu pour les parasites puis tout ça qui pourrait rentrer. Là. Yannick dit, combien d'années les petits restent avec leur mère? Leur mère vont rester là jusqu'à la deuxième année. Un an et demi, autrement. Ben, un an et demi, non. Ils vont rester là. Ils naissent. OK? Et la première hiver, naturellement, ils vont passer avec la maman. Ils vont être toute l'année avec la maman. Ils vont passer l'hiver avec la mère. Et puis là, au printemps, tchoup, bye-bye, ils décollent. Donc, c'est là qu'ils prennent le bord. Ils ne demeurent plus avec leur mère, ils s'en vont. Ils prennent leur territoire. Habituellement, les femelles vont demeurer dans le même territoire que leur maman, dans le même coin. Hein? Pas trop loin. Les petits mâles vont s'en aller au loin. Les petits mâles vont aller chercher un territoire, à moins d'être hyper dominant, là, puis prendre le territoire. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu un ours méchant, mauvais, là, et puis il chassait tout ce qu'il y avait autour, puis il n'était pas gros. Là. Là, ici, la graisse. Ah, je la fais chauffer, je la filtre pour me faire de l'huile. Protéger mes bottes, oui, absolument. Ça, je vais en venir à ça tantôt. Mais c'est ça. Moi, je fais boucherie, donc là-dessus, c'est bon. Puis Pierre m'a devancé, on dirait qu'il lit dans mes pensées. As-tu lu mon script? Je pourrais réellement te le montrer. Votre graisse d'ours, vous en faites quoi? Vous savez que si vous ne la laissez pas vieillir, là, si vous débutez votre ours et puis vous gardez la graisse, et immédiatement, hein, vous la coupez en petits cubes, là, d'à peu près un pouce carré, mettez ça à frire tranquillement, là, filtrez l'huile, vous savez que c'est une très, mais là, très, très bonne huile pour faire à manger. Il n'y a rien de mieux que ça. Là. Très bonne huile pour faire à manger. Si vous la laissez vieillir, comme là, moi, j'en ai dans le congélateur, là, je vais faire une vidéo là-dessus. Là, à ce moment-là, cette huile-là, elle sera plus bonne de la consommation parce que le gras va avoir, comme il va avoir devenu un peu rance. Là. Le gras va être un peu comme amer. À ce moment-là, quand même, je vais le faire, mais comme notre ami Pierre Deslaure Pumiska a dit, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je le garde pour mes bottes. Je pourrais, ouais, j'ai des bottes, là, mes Keen, là. J'ai donné deux couches dessus il y a 3 ans. Je peux marcher dans l'eau encore avec là. Aucun problème. Sur du cuir, naturellement. Là. Pierre nous dit ici, la graisse, je la fais chauffer, je la filtre, me fait de l'huile protégée. Mais... Ouais. Ouais, les choses de bois, cuir, suis-je le seul? Non, moi je fais ça, c'est sûr et certain. Et puis, j'ai ici, ah bon. Je te vois venir, on dirait que je connais, ouais, je pense que tu me connais un peu. On a fait pas mal d'émissions ensemble. Puis en parlant de connaître, écoutez, puis là, je suis pas payé pour faire qu'est-ce que je vais faire là. Et oui, on jase, c'est justement la mère, ça vient de la brasserie, attendez un petit peu, Pit Caribou. Et puis, commence à avoir soif. Donc, si ça vous tente, là, prenez un petit break, allez vous chercher de quoi. On va continuer à jaser. Et voilà. C'est comme au camp, hein, avec le couteau. Et puis, on va... Et puis, c'est une 4% d'alcool. Là. C'est une petite pilsner, donc il n'y a aucun grand problème. Mais là, à force de parler, on vient que... Hein, on peut prendre une bière. Puis, je ne suis pas... Je vous le dis, là. Je ne suis pas payé pour ça, moi, là. Là. C'est... Non. C'est juste que je voulais l'essayer. Et puis, mais par contre, on a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Avec une brasserie, micro-brasserie du Saguenay. Nos amis qui sont là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, oui, les os, les os, vous en faites quoi? Est-ce que vous les gardez pour faire de la soupe? Les faire bouillir? Hein? Comment qu'appelle ça? La moelle? La moelle, est-ce que vous la mangez? J'en surprends plusieurs, hein, là, je pense. Parce que on a toujours dans l'idée, ah ouais, mais là, il y a la trichinellose. Trichinellose, c'est entre les muscles. C'est pas dans les os. C'est pas dans le gras. Donc, bon appétit, soif, oui, ça fait du bien, justement. T'as pas touché aux os, Pierre? Alors, je te dis, les os, là, pour la soupe, parce qu'on sait qu'on a bien beau, là, même quand on fait notre boucherie, et puis même, votre boucher devrait, en théorie, vous demander si vous voulez garder vos os, hein, comme il fait, comme il devrait, en théorie, le faire avec le rignal, le chevreuil et tout ça. Ben, moi, mes os, naturellement, je les garde, je les conserve. Écoutez, c'est sûr et certain que je les utilise. On les coupe en deux, ou en trois, ou en quatre, là, dépendant de l'os, là, naturellement. Et puis, on se fait des bons bouillons de soupe avec ça. Très, 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 très bon. Même pour faire des courts bouillons. Aussi, taxidermie. Est-ce que vous tannez vos peaux? Y en a-t-il qui tannent leur peau eux-mêmes, blanchissent leur crâne eux-mêmes, ou vous faites faire ça ailleurs? Moi, les crânes blanchis, je les fais, mais la tannerie n'est pas capable. Denis nous dit, notre boucher nous dit que pour l'ours, il ne faut pas de choses aux os, alors tu me surprends. Bien, c'est lui qui me surprend. C'est ça, c'est que c'est le manque de connaissances qu'ils ont envers l'ours. Ils pensent à la trichine. Mais la trichine, là, c'est juste dans le muscle. C'est dans le muscle de la viande. C'est pas dans les os, c'est pas dans le gras. Il y a zéro, zéro, zéro problème avec ça. Zéro. Moi, je vous disais, sinon, ça ferait longtemps que je serais mort, là. Ça, je peux vous dire ça. Non, il n'y a aucun problème avec ça. Même j'ai des amis, moi c'est des amis qui m'avaient dit ça, là, ad vitam aeternam, qu'eux étaient déjà vieux puis ils en ont mangé. Non, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de peur à y avoir, là, ça je vous le garantis. Je vous le garantis, là, je peux vous le montrer. Des os, j'en ai dans, ici, j'en ai dans mon congélateur, dans le garage. On les garde toutes, je les garde toutes. Les organes internes pour le castor, la mousse de foie, est excellente, mais pour l'ours, je ne sais pas. Non, le foie, par exemple, d'ours, le foie, le cœur, je n'ai jamais consommé de foie de cœur d'ours. Premièrement, le foie contient trop de... Il y a quelque chose là, qui est dangereux dans le foie d'ours. On ne le consomme pas. Et puis le cœur, ben, naturellement, c'est un muscle. Puis on sait très bien que la fameuse trichine se tient entre les fibres de muscles, donc non, on ne le consomme pas. Moi, je ne consomme rien de ça. Quand on fait de la saucisse, bien naturellement, on va chercher. On a la chance ici à Saint-Ulrich d'avoir un maître, je ne sais pas si tu appelles ça un maître saucissier, là, mais un gars qui fait de la saucisse, puis il est vraiment bon. Le gars, là, il a au-dessus de 100 sortes de saucisses qu'il y a. Et puis, il y a des gens de partout, là, de partout de la Gaspésie. Il y en a là, qui font des voyages spéciaux une fois par 3-4 mois, là, mais ils ressortent de là, ils l'appellent, puis ils ressortent de là avec des centaines de livres de saucisses. Fait de la saucisse avec du bleuet. Moi, j'en ai moutarde et miel. Là. Oh my God! Elle est super bonne. Il fait au-dessus de 100 sortes. 100 sortes, puis il n'est vraiment pas dispendieux à part de ça. Là. C'est vraiment fou, là. C'est fou. Toutes les gens, ça part de Rimouski, puis s'en est ici. On est à 1h15 de... M'excuse. De Rimouski, donc on a des gens qui viennent de partout. Je parle trop vite. Ça ne passe plus. Oui, c'est ça. Les gens, le mot que tu cherchais était du cadmium, exactement. Oui. C'est le fameux cadmium qui est très, très dangereux. Donc, pour ce qui est du foie, j'en consomme pas. le foie et le cœur, naturellement. Là. On n'en consomme pas. Qu'est-ce qu'on avait ici? Taxidermie, oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des peaux chez vous? Est-ce que vous le faites faire ou est-ce que vous le faites vous-même? Qu'est-ce que vous faites? Denis, il consomme le foie et le cœur très bien cuit, c'est sûr, depuis 4 ans. 5 courses, tous consommés. C'est super, mais bien cuit. Moi, je te dirais ça. Au niveau du foie, je me garderais une petite réserve à cause du cadmium, là, parce que je sais pas s'il disparaît bien cuit. Je sais que, du foie, je veux dire. Le cœur, peut-être qu'avec, en étant bien cuit, la trichine, naturellement, à 77 degrés, c'est fini. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y en a plus. Puis, c'est pas vrai, by the way, là, faites attention, les gens qui disent que la trichine disparaît si ta viande d'ours est au congélateur pour un an. Ça, c'est... Non, arrêtez ça, là. Pensez pas à ça. C'est vraiment, vraiment pas vrai, ça, là. Elle disparaît pas. La seule façon qu'elle va disparaître, c'est quand elle va atteindre 77 degrés Celsius. Beaucoup disent 76. Fine, c'est correct. Mais moi, je l'ai toujours fait à 77. Et puis, jamais eu de problème. Naturellement, c'est pas une viande qui va... Tu sais, tu feras pas un hamburger sur le charcoal avec de l'ours. Et puis, la prochaine chose que je vais essayer de faire avec ma viande d'ours, l'année prochaine, ben, cette année, là, ça va être de la canée. Oui, mais bien compris, canner de la viande d'ours. Il paraît que c'est un délice. J'ai un ami aux États qui fait ça. C'est sûr, quand tu regardes le pot, ça fait comme « wesh, que c'est que c'est ça? » Mais quand tu le consommes, là, oh my God, c'est fou, là. C'est vraiment fou. C'est vraiment bon, je te dirais, là. C'est vraiment bon. Et puis, si on a des chasseurs aussi, ça, c'est une chose que je n'ai pas oublié de mentionner. Un organisme qui, depuis cette année, ça fait une couple d'années, là, on parle de chasseurs généreux. Hein? Le chasseur généreux, maintenant, ça fait que certains bouchers vont accepter la viande d'ours, des donations, pour que, finalement, on réussisse à partager avec ceux qui ont faim. Hein? La même chose... Quand on parle de chasseurs généreux, vous savez tous que, bon, pour l'orignal, le chevreuil et tout ça, on peut naturellement donner notre viande. Mais chasseurs généreux, je vous le dis, là, ça vaut la peine. Faites-le. Donnez, même si vous donneriez 5 livres, là, mais si tout le monde donnerait 5 livres, ben, il y a des gens qui auraient moins faim. Là. Donc, moi, je le fais, en tout cas. On donne un petit peu plus que ça, là, mais c'est ça. On aime bien ça. Ici, notre ami Yannick nous dit « Je me fais des crânes de chevreuil moi-même, mais c'est la première année que je vais à l'ours et j'aimerais bien avoir une belle fourrure devant mon foyer à la maison. » Ah oui, c'est le fun. C'est vrai que c'est le fun. J'en ai quelques-uns. On a quelques-uns. Hein? À un moment donné, j'en ai même un qui est dans le congélateur. Là, on est déménagé. On n'est plus en Abitibi. Je ne sais plus qui ce qu'il va le faire. Donc, j'ai un tanneur, j'ai trouvé à Rimouski. Je sais qu'on peut tester la viande pour la... Oui, c'est un fait. À Saint-Hyacinthe, vous pouvez le faire faire. D'ailleurs, il y a une couple d'années, Saint-Hyacinthe nous demandait d'envoyer la langue de l'ours pour la faire tester pour la trichine. Puis vous savez que c'est pas toutes les ours qui l'ont non plus. Mais prenez pas de chance. OK. Denis nous dit, Eric, nous autres, là, délicieux hamburger d'ours, lol. Moi, là-dessus, mais à moins, là, tu sais, que c'est sûr que tu testes, tu fais des hamburgers quand même, mais tu vas tester la température là-dedans. Mais j'ai personnellement un ami qui a mangé des hamburgers, puis c'est un gars qui a la chasse depuis au moins 30 ans. Ils ont fait des hamburgers, paf, il a pogné la trichine. Puis là, c'est moi vous dire, une affaire, il s'en souvient encore, puis ça fait une dizaine d'années. Il s'en souvient énormément. Pourquoi pas des hamburgers à l'ours? Ben c'est ça. Moi, c'est parce que c'est la mauvaise expérience que mon ami a eue. Pourtant, Écoute, la viande hachée, j'en fais, là. C'est pas que j'en fais pas. J'en fais, mais je vais mettre ça comme pâté chinois, chili, sauce à spaghetti, mais elle est bien cuite. Tu sais, c'est une viande qui est bien cuite. Après ça, elle s'en va, puis elle mijote encore. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, là. Ça atteint une température, ça a tué toutes les bactéries. Mais le fameux hamburger sur le barbecue, moi, c'est ça. Je me garde une grosse réserve là-dessus. J'ai trop vu d'accidents arriver. Il y a trop de chances que ça arrive. Donc, j'aime pas trop faire ça. L'autre chose que je voulais mentionner, justement, je voulais parler avant de tout terminer ça. Est-ce que vous trappez? Trappez-vous l'ours? Là, il va y avoir deux questions. Il y a le trappage de l'ours, qu'on va discuter un tout petit peu, et puis vous allez voir où je veux en venir. Et puis ensuite, il va y avoir notre éthique de chasse à l'ours. Ça, c'est un autre sujet qui va peut-être enfoiser quelques-uns, mais écoutez, je vais juste discuter pour discuter. C'est un forum qui est ouvert, donc c'est ça qui est plaisant. Puis si vous nous écoutez en balado, donc... Et voilà. C'est ça. Oui, c'est ça, notre ami Pierre, c'est sûr que, oui, c'est un trappeur. Est-ce qu'il y a d'autres trappeurs parmi vous? Parce que moi, j'ai une chose que j'aime pas au niveau de la trappe pour l'ours. C'est il y a trop de chances à l'automne. Le printemps, puis encore là. Mais le printemps, tu sais, on peut toujours prendre une femelle. Hein? Moi, c'est ce que j'aime pas beaucoup parce que si on arrive le printemps, on trappe le printemps, la femelle, elle sort, elle a des petits de l'année, ben là, les deux petits sont morts, la femelle est morte. Ça fait trois ours de moins, mais c'est une reproductrice de moins. À l'automne, vous allez me dire, des petits de l'année, il y a les petits de l'année. Attends un petit peu, Pierre nous dit, moi non plus, parce qu'on sélectionne moins les... Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'on sait, on n'a pas la... Tu sais, si on saurait qu'on prendrait juste des mâles, ben là, c'est pas grave, là. Tu sais, puis c'est le fait aussi, là, au moins, il y a une chose qui, avec les années, sont arrangées, c'est qu'anciennement, la trappe à l'ours, tu pouvais attraper ça comme des castors, là, ou comme des martes, ou il n'y avait pas de limite, là. Go, tu pouvais en attraper comme tu voulais, là. Ça, j'étais moins fou de ça. Là, c'est sûr que ça n'existe plus, là, il y a des limites quand même, mais c'est le fait que tu sais, il y a trop de chances que la femelle soit là. La femelle, elle a aussi faim que le mâle, là. Hein? Puis elle se pogne la patte là-dedans, bien, tu peux pas aller la libérer, là. Pense pas, en tout cas. Tu sais, s'il y aurait une façon de la libérer, ça serait encore pas si pire, mais je pense pas qu'il y ait des façons de la libérer. Pierre nous dit, par contre, des caméras en place avant de clencher les pièges, on diminue les risques. Par contre, avec des caméras sur place. Ah ouais! Oui, ben non, là, ça, c'est sûr. Mais quand même, tu sais pas, hein, un ours se déplace beaucoup. Donc, on sait pas, là. Entre 2 et 4, selon les zones actuellement, c'est ça. Ça, c'est au moins, c'est pas super, là. Mais, tu sais, moi, j'ai déjà vu un gars dans mon coin, en Abitibi, avant. Le printemps, il a pogné, je pense, c'est 2 ou 3 femelles. Et puis, là-dessus, je sais très bien qu'il y en avait une qui avait des petits de l'année. Donc, c'est 3 ours de moins. Les autres femelles, je ne sais pas, d'après moi, il y avait des petits, là, parce que c'est toutes des femelles adultes. Donc, c'est ça. C'est que ça détruit un tout petit peu. Là. C'est pas comme le RTLB, là, où ce qu'il faut qu'on abatte des femelles, parce qu'il y a trop de femelles pour les mâles ou chevreuils. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour la chasse à l'ours, c'est complètement une autre chose. Comme je l'ai mentionné, je ne sais pas si vous étiez tous là, quand j'en ai parlé tantôt, là, mais j'ai dit que parmi les mammifères terrestres ayant le plus faible taux de reproduction, c'est l'ours, car les femelles commencent à se reproduire entre l'âge de 4 et 7 ans et n'ont pas plus d'une portée à toutes les 2 ans. Hein? Donc, en moyenne, on dit qu'ils ont quoi, je pense, c'est 6 portées dans leur vie. De quoi comme ça, là? 6 ou 7 portées dans leur vie. Donc, c'est pas beaucoup. Et puis, en tout cas, moi, c'est pas que je suis contre la trappe à l'ours, même pas ça. J'aime pas ça. Est-ce que je ferais des pressions pour faire arrêter ça? Non. Tu sais, je suis pas un revendicateur, là. On a nos libertés quand même. Mais c'est sûr que ça me ferait pas de peine s'ils diraient à un moment donné, t'as le droit à un ours. L'automne, un le printemps, un l'automne. Puis même encore là. Tu sais, mais ça, ça serait pas si pire que ça. La dernière chose que je veux aborder, puis là, ça va peut-être en faire sauter une coupe, c'est votre éthique de chasse. Quand vous êtes là, vous abattez quoi? Puis là, je ne vous donnerai pas la réponse. J'aimerais ça que vous me dites, j'abats la première chose qui passe. J'attends pour une certaine chose. Je ne veux pas trop m'aventurer. Mais votre éthique de chasse, c'est quoi? Est-ce que vous êtes des personnes qui sont vite sa gâchette ou qui vont attendre? OK, c'est quoi là? Ouais, ben, le castor, comme si j'étais même pas au courant. J'étais pas au courant qu'ils veulent ouvrir le castor comme petit gibier. Ce serait le fun parce que le castor, c'est une bonne viande, mais je peux-tu vous dire que ça pourrait peut-être faire un gaspillage énorme, là, dans le sens que, tu sais, quand tu en tires un dans l'eau, là, faut peut-être que tu alignes à pêche le grappin, faut que tu ailles chercher ça. Ben, en tout cas, je ne sais pas. Pour viande, ça, je sais que c'est bon parce que j'ai un trappeur encore là en Abitibi qui, lui, nous fournissait en viande, ça, et du chat sauvage, là, du lynx, qui nous fournissait en viande. Ben, il nous en donnait de temps en temps, là, quand c'était ferré, là, des fresh catch, là, puis il nous en donnait, puis c'était bon. Yvon, dans un monde idéal... Dans un monde idéal, le bien-être one, mais en réalité, le plus gros possible. Le bien-être one. Un ours, ouais. OK. Ici, on va dire pas nécessairement les big des big. De quoi de raisonnable? Et un mâle, si j'arrive à le reconnaître. Ouais. Ben, OK. Là, on a une couple de réponses. Moi, je vous dirais que j'ai déjà même passé, là, 3 ans, j'ai passé mon année à filmer parce que j'avais 2 petits mâles, j'avais une femelle avec 2 petits d'un an et demi sur l'abeille. J'ai fait du filmage toute la saison. À un moment donné, un gros mâle s'est pointé. Mais la femelle était encore avec les petits. Et puis, laissez-moi vous dire qu'elle l'a couru. Elle n'était pas encore à chaleur. Puis, c'était vers la fin du mois de juin. Elle est tombée en chaleur un petit peu plus tard en juillet. Donc, je n'ai pas récolté cette année-là. Et puis, ça ne me dérange absolument pas, là. Mais je n'ai pas récolté. Donc, moi, je vous dirais, pour moi, là, je vais tout faire pour éviter d'abattre une femelle. Tout. Tout. Est-ce qu'un accident peut arriver? Absolument, là. Je veux dire, puis je vous dirais que là, 3 ans, mon épouse, elle a récolté un mâle. Moi, je filmais, là. Je filmais, et puis dans mon petit écran, puis on a attendu, était bien placé, on voyait pas de pis. Puis on le sait, je sais pas, ceux qui chassent l'ours, là, depuis un bon bout de temps, savent que la femelle est plus nerveuse, ça abête, elle va chercher à communiquer avec ses petits quand vous prenez le temps naturellement d'attendre un peu là. Et puis surtout quand on apporte par terre, là c'est, tu sais, parce que moi ma bête est toujours face à l'ouest, tout le temps. Hein, pour les vents dominants, je les ai toujours d'en face. Oui, les vents vont tourbillonner, c'est sûr, là, mais la majorité du temps, j'ai le vent d'en face ou de côté. Donc, les ours ne me sentent pas tant que ça. Ils savent que je suis là, ils savent qu'on est là. De toute façon, ils nous sentent d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous êtes la personne qui nourrissait, moi, j'allais nourrir avec mon épouse le plus souvent possible, naturellement. Et puis, je vous dirais... Ah oui, j'ai eu tout un show. Mon fils Mackenzie est là aussi. On a eu tout un show cette année-là parce que finalement, Nancy a eu une perdrix qui a atterri sur la tête. C'était comme drôle parce que quand l'ours est arrivé derrière la bête, la perdrix est venue pratiquement y atterrir sur la tête. Là, ça ne se penchait pas tout ça. Puis moi, je me suis reviré de bord parce qu'il y avait un beau sapin, je veux dire, comme là, là. Puis la perdrix était là. Elle était directement en pleine face. Ben moi, je me survirais avec ma caméra. Puis à un moment donné, quand j'ai regardé, l'ours était rendu sa bête. L'ours a passé en dessous de nous autres. Directement en dessous de nous autres. Et puis, c'est en allé sur la bête. Mais là, on a eu beau... je m'excuse. Regardez. On a tout fait. Et puis, je vais vous dire de quoi... Ça, c'est une des choses, quand on apporte par terre, il faut toujours mettre un écran derrière, hein, où on chasse. Et puis moi, j'arrange mes écrans à une certaine hauteur. Ça me donne une idée de la hauteur. Tu sais, comme vous le faites avec les barils. je m'excuse. Ça donne une idée de la grosseur de l'ours. Mais on sait qu'on connaît, on vient qu'on connaît ça, là. Puis je voyais le lit, petites oreilles. J'étais vraiment un gros ours. Et bien là, j'ai regardé Nancy, puis j'ai dit, écoute, vas-y, t'as l'arbalète. Je dis, go, écoute, super bel ours, puis c'est un bel ours, là. Et puis, je vous dirais que vide, pour une femelle du printemps, 225 livres. Elle a fait 75 pieds, cœur, poumon. Ben, en tout cas, le plus de côté un peu, là, a frappé les poumons puis le cœur. Et puis, la flèche, la tête de flèche est restée prise dans son épaule en avant. Mais elle a couru un petit bout, puis elle est tombée là. En fait, elle avait 75 pieds, puis elle est tombée là. Mais à notre grand désarroi, quand on est arrivé là, puis on leur virait de bord, oh my God, c'est ça, c'était une femelle. Mais que je voulais ça, un accident comme ça, mais t'es grosse, là. C'était toute une femelle, maudit. Notre ami Martin, la première fois que j'ai chassé l'ours, j'ai été vite sa gâchette. J'ai vu l'ours, d'après, j'ai réalisé ennemi, j'étais déçu de moi. M'a servi de leçon. Ouais, mais c'est sûr, hein, tu sais, quand on les premières fois, avez-vous remarqué une chose? Quand on est à la chasse à l'ours, là, et puis on est à une trentaine de pieds de la bête, là, ils ont tué tout l'air gros, des fois. Là. Tu sais, tu regardes ça, là, puis un des animaux les plus difficiles à gager, c'est un ours. Hein? Très difficile. Et puis là, tu es là, puis tu le regardes, puis tu te dis, wow, c'est un gars. Mais si tu n'as pas de comparatif, là, c'est encore plus difficile. Le baril, ben, tu vas le voir, tu sais, tu vas le gager. Mais c'est normal. Tu sais, quand tu fais tes premières chasses, c'est ton premier ours, tu vas aller le récolter, tu vas aller le chercher. Puis, il ne faut pas s'en faire avec ça. Écoute, c'est tellement une chasse passionnante. Puis, il y en a beaucoup qui disent, malheureusement, encore aujourd'hui, qu'une chasse au baril, c'est très facile. Une chasse au baril, moi, vous expliquer quelque chose. C'est très, très, très facile d'attirer des ours. Mais des gros ours, les 300, 350, pas si facile que ça. Pas si facile. La seule erreur qu'un gros va faire, là, puis il faut que vous soyez wise, là, il va faire une erreur, c'est à l'accouplement. Là, l'accouplement, là, il peut s'aventurer à venir sniffer sur votre bête. Il va-tu manger? Des fois, il ne mangera même pas. Il va passer. Soyez vite sa gâchette. Parce que lui, il va l'être vite. Il va sacrer le canada là. Au moindre petit bruit. Il n'est pas gros, puis il n'est pas vieux pour rien. c'est ça qui arrive. Hein. C'est des chasses qui sont tellement palpitantes et puis c'est des chasses tellement plaisantes, mais il y a une façon de chasser l'ours. Où est l'ursus? OK. Où est l'ursus? Ouais, ursus canadianus, whatever. Là. Denis nous dit, il y a 2 ans, autant mon fils que moi, on était certain que c'était un mâle et surprise quand il est venu pour l'ouvrir, c'était une femelle seule. C'est ça. C'est ça qu'on, ça arrive, ça. C'est des choses qui arrivent assez souvent, disons-le. C'est tellement difficile. Il y a des gens... Tu sais, oui, il y a des façons. Il y a des façons. On va regarder si vous avez la chance de voir votre ours de face. OK? Là, je veux dire, puis mesdames, là, soyez pas fâchés contre moi, là. Mais la femelle, là, va être moins large du devant. Elle va s'en avoir la forme d'une poire. Littéralement. Ça, vous allez voir, c'est une femelle. Vous allez vous en apercevoir. La deuxième chose, c'est que vous allez voir que votre femelle n'a pas le même, avoir la figure, la figure, le museau plus allongé. Mais encore là, je me suis fait avoir moi aussi. Donc, mais le mâle habituellement est plus stubé, plus carré. Tu sais, le museau, là, il va être plus carré que la femelle. La femelle va être plus arrondie. Mais ça, il faut le savoir. Tu sais, puis quand tu vois une grosse affaire arriver, encore là, la meilleure chose, c'est de s'installer de quoi si vous le faites par terre. Moi, j'installe toujours mon écran en arrière puis je me base là-dessus. Pourquoi? J'ai rien contre les barils, là, mais c'est une habitude que j'ai. Et puis l'autre affaire, c'est que l'ours va toujours, toujours, toujours bien se placer sur votre bête quand il est nourri par terre. Parce que naturellement, vous êtes face à votre bête. Hein? Vous êtes directement face à elle. Vous allez avoir vos billes, vos billots, là, toutes de travers comme ça. Hein? Ils vont être de même. Là, l'ours va arriver pour manger. Il va tirer là-dessus. Il va avoir tout ça dans les pattes. Il n'aime pas ça. Il n'aime vraiment pas ça. Il va prendre quelques bouchées. Ah, c'est bon. Il va aller virer de bord, il va se poser pancarte à toutes les fois. J'ai jamais, jamais, jamais. Des fois, ça peut prendre une minute ou deux. Puis il y en a qui sont un peu moins patients, qui vont, ils vont déterrer, ils sentent un peu, puis tout de suite, ils se placent parce qu'ils ne veulent pas avoir ça à côté sur eux autres dans leurs jambes. Hein. Puis on sait qu'il y a de la mélasse dessus, des fois du popcorn, puis bon. Non, ils ne veulent pas avoir ça dans les jambes, ils vont aller se mettre de côté. Ils vont l'ouvrir, parce qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir comme ça, ils vont l'ouvrir, puis après ça, ils vont rentrer dans la bête, manger. C'est leur façon naturelle de le faire. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est plus facile. Il est toujours pancarte à vous autres. Vous allez pouvoir tirer votre ours plus facilement. Vous allez avoir plus de temps. Puis naturellement, moi, je dis toujours aux chasseurs, prenez votre temps. Ça ne donne rien de courir sur une bête. Ça ne donne rien de tu sais, ben, pas sur une bête, mais ça ne donne rien de courir. Tu sais, à moins qu'on ait un petit ours qui est bien nerveux, il va rentrer sur la bête, il est nerveux, au moins un petit bruit, fouf, il sauve, il va revenir. Il va revenir parce que dites-vous qu'il y a deux seules choses qu'ils veulent faire, l'ours. Se nourrir, se coupler. C'est deux seules choses qu'ils veulent. Donc, il va revenir sur la bête, il va revenir manger. On est chanceux, un mois et demi de chasse, et ça, je sais que m'en fait rire quelques-uns, là. On dit, waouh, on a un mois et demi. On va attendre une couple de jours. Je vais vous dire que des fois, tu attends une couple de jours, puis tu arrives au fin du mois de juin, puis tu n'as pas récolté encore, puis là, tu te dis, « Hey, Colin, que c'est ça? » Tu sais, on aime être dans le bois, par exemple. C'est le fun, c'est une belle chasse. Moi, j'ai été chanceux et surpris ici en Gaspésie. Vers les dernières journées du mois de juin, commençait à avoir une coupe de mouches. C'est tout. Je peux-tu vous dire qu'en Abitibi, mes amis savent très bien, on a de la mouche. Il y en avait là-bas au centimètre, au millimètre carré. C'est une manufacture à mouche noire et à les tons, comment est-ce qu'on appelle ça, les les thons à chevreuil, là, en tout cas, les grosses mouches qui mangent, ils partent avec un bout de ta peau. Donc, on a pas mal fait le tour. Et puis moi, bien naturellement, tantôt en parlant, j'ai été faire un tout petit tour et puis j'ai choisi au hasard, hein, parce que je pointe, puis ça tombe sur une personne. Donc, notre ami a un bon thermocèle, j'en ai deux. Denis Gagnon, qui est notre gagnant du 25$ de la carte cadeau de Pro Nature. Donc, Denis, tu iras sur un mot thermocèle. Oui, c'est ça, un bon thermocèle, me dire, Cynthia, c'est vrai. Donc, Denis, ce que tu peux faire, c'est aller sur Guy Martin, m'envoyer ou sur Simplement Plein Air et m'envoyer tes coordonnées qu'on te fasse parvenir la carte cadeau de 25$ de Pro Nature. C'est une carte cadeau, c'est un cadeau qu'on donne à toutes les semaines aux gens qui font des commentaires. Et puis, naturellement, ben, cette semaine, c'est vous, mon très cher. J'espère que vous avez aimé notre... Et puis là, écoutez, même, je ne veux pas vous quitter en vous demandant, en ne vous demandant pas de si vous avez d'autres commentaires ou... la clitonite boréale, c'est quoi ça? C'est une fleur, hein? C'est mieux, les racines attirent les ours. Oui, c'est un fait. Puis, une autre chose aussi, un autre signe que je n'ai pas pensé vous montrer tantôt, et puis je suis certain que vous avez vu ça. Vous savez que, ça, je peux, tiens, en terminant, on va faire ça. Ça va en renseigner plusieurs, là. Vous savez qu'il y a trois périodes dans l'année où l'ours modifie ses habitudes alimentaires. Entre avril et juillet, l'ours consomme essentiellement de la végétation herbacée et des bourgeons, mais aussi des insectes, principalement des fourmis. Donc ça, c'est en début de saison. À partir de juillet, l'ours se nourrit surtout de baies, mais également d'insectes. À partir de la mi-octobre, dans les forêts au sud de la province de Québec, l'ours se nourrit de fruits riches en lipides, comme les fennes. Les fennes, là, c'est les fruits des aigles, là, tu sais, qui plein de pic-pic après, là, puis les glands. Les glands aussi sont très, très nutritifs pour notre ami l'ours. Mais regardez ceci et vous me direz c'est quoi. C'est justement ce qu'on vient de parler, c'est que les ours vont creuser, ça c'est une vieille, là, mais les ours vont creuser et puis ils vont essayer d'aller chercher les petites fourmis. Et puis ça ici, bien naturellement, encore là, vous voyez, regardez les ours, là. Ça, c'est la maman avec les petits. Puis regardez, ils étalent ça, là, puis ils deviennent pancartes, là, pancartes bien raides. Ils changent, s'en viennent de côté à nous autres. Super le fun, plus facile, naturellement, pour la récolte, là. Comment tu manges ta viande d'ours? Un peu. Et le jus des feuilles, pas éloigne des mouches. OK. Et comment tu manges ta viande d'ours? Je ne suis pas sûr de ta question, là. C'est sûr que je la mange bien cuite à 77 degrés Celsius. Je la fais à la mijoteuse. Mon ami Marc va être content de moi, là. Je fais ça à la mijoteuse naturellement, ou comme je l'ai mentionné tantôt, écoute, je fais du pâté chinois, on va mettre de la viande hachée dans la sauce à spaghetti. On va aussi faire du chili avec pour la viande hachée. Je la mange en cubes aussi. On fait des cubes, on fait des qu'est-ce qu'on appelait des stews, là, des ragoûts. Des ragoûts, on fait en... Moi, j'aime beaucoup les rôtis. On va faire un rôti. Et puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que moi, je le fais toujours saisir. Tout le temps pour garder les sucres. Là. Ensuite, on peut le mettre à la cocotte, le faire cuire. On peut le mettre un autocuiseur, ça se peut-tu, en tout cas. On le met là-dedans ou je le mets au four. J'ai une belle marmite en fonte. Je le mets au four, mais doux. Très, très doux, là, genre à 205. Je le mets à 300. Et puis, je le laisse aller et puis je le ressors de là. Et puis, on peut le trancher facilement. C'est vraiment, vraiment hot, là. C'est le fun. Ou pendant l'été, ce que j'aime faire aussi, au barbecue, je vais le laisser boucaner. préparation. Les steaks, j'en mange pas. Je fais de la saucisse, oui. Saucisse hachée et puis des rôtis. Ouais, c'est ce que je fais. Puis des cubes. Des cubes aussi, là. T'es bienvenue, mon ami Denis, et puis on va t'envoyer ça, c'est sûr et certain. Tu vas recevoir ça avant la fin de semaine prochaine. Yannick, as-tu reçu ton couteau? Je ne sais pas si Yannick a reçu son couteau. J'ai envoyé le couteau. Ici, j'ai superbe ce soir, mon ami. Il est vraiment un sujet top. Ça va être le fun. Et la semaine prochaine, ne manquez pas. Ne manquez pas ça parce que la semaine prochaine, on parle de champignons. On parle de champignons avec qui vous pensez? Avec notre ami Monsieur Roger Larivière, qui est auteur, il est aussi éditeur, et écoutez, c'est un conférencier hors pair, maison d'édition, super trippant, Monsieur Larivière, professeur à la retraite, et il donne beaucoup de conférences de formation sur les champignons. Il a écrit 10 bouquins sur la flore. Justement, boréal, dont deux sur les champignons, dont j'en ai un ici. Je vais aller chercher les champignons comestibles de la forêt boréale de M. Roger Larivière. Moi, c'est ma Bible. Super le fun. Donc, mon fils Mackenzie, s'il est encore là, tu vas bien le recevoir bientôt. C'est sûr, lundi ou mardi, Yannick, tu vas le recevoir. Si Mackenzie Lee est encore là, tu diras à notre Française préférée qu'on va parler de champignons la semaine prochaine. Donc, c'est ça. On va jaser. On a du fun. Puis, merci d'avoir été là. C'est super trippant. On vous encourage à partager, justement. C'est beau vendredi soir-là qu'on passe en famille. Je dis en famille, hein? On est ensemble, on jase. Vous nous. Vous envoyez des questions, on essaie d'y répondre le mieux qu'on peut. Merci Marc, merci, c'est super encourageant, super le fun. Écoutez, puis même, je vous ai fait une petite vidéo drôle, pas ben non, pas drôle. Je vous ai fait une petite vidéo pour la fin, on termine toujours avec un petit bout de vidéo. Ben, c'est ça, c'était la fin de la chasse. Donc, merci de votre encouragement. Abonnez-vous. C'est ce qui nous paye, nous. C'est ce qui nous. Tu sais, à un moment donné, on va atteindre le 1000. C'est sûr, mais qu'on atteigne 500, on s'en vient. Là, on a 420, je pense, abonnés. Quand on va arriver aux 500, bien naturellement, il va y avoir un tirage, des tirages qui vont se faire parmi les 500 premiers abonnés. Donc, ça, c'est. Zéro discrimination, tout le monde qui est là, le nom il est là, il va y avoir des tirages, il va y avoir des prix qui vont être donnés. Donc, là-dessus, soyez des nôtres, partagez la vidéo, on va avoir du fun. Et moi, je vous dis, ben, à la semaine prochaine, tout le monde. Bonne soirée tout le monde, à la prochaine.